Vous écoutez, on lit pour vous.
L'hémisphère dominant de notre cerveau explique notre personnalité? Faux! Un texte de Kathleen Couillard, paru le 30 juin 2024 dans l'Express.ca de Toronto. C'est une croyance populaire sur le cerveau qui survit au passage des décennies. Les personnes rationnelles utiliseraient davantage l'hémisphère gauche de leur matière grise, alors que les personnes créatives auraient plus souvent recours à l'hémisphère droit. Il s'agit d'un autre neuromythe. Des aires spécialisées. À la base, il est exact que notre cerveau possède des aires spécialisées. Et c'est ce qu'a constaté en 1960 le neuropsychologue et neurobiologiste américain Roger Sperry, à partir de ses expériences sur des patients dont les deux hémisphères du cerveau avaient été séparés pour soigner leur épilepsie. Sperry a ainsi démontré que l'hémisphère gauche était spécialisé dans le langage, alors que le droit était plutôt impliqué dans les fonctions émotionnelles et non verbales. Un travail qui lui vaudra en 1981 le prix Nobel de médecine. Il n'était toutefois pas question de personnalité dominante. En fait, rappelait en 2014 le psychologue néo-zélandais Michael Corballis, cette asymétrie du cerveau est répandue parmi les animaux. Une notion séduisante. L'idée que le côté dominant de notre cerveau influencerait notre personnalité et nos aptitudes va néanmoins prendre son envol. Par exemple, la professeure d'art Betty Edwards a publié en 1979 le livre « Dessiné grâce au cerveau droit » qui affirmait que l'hémisphère droit était responsable de la créativité. En 2009, le psychiatre Ian McGilchrist a écrit un livre intitulé « The Master and His Emissary » où il explique que l'hémisphère droit est le dominant en général et que c'est ce qui a modelé la culture occidentale. Dans un article qu'elle consacre à cette question, l'Encyclopédie Britannica constate qu'il y a une petite industrie qui lui est consacrée. Plusieurs livres de croissance personnelle, des tests de personnalité et des thérapies sont basés sur cette prétendue opposition entre le cerveau gauche et le cerveau droit. Oui, le cerveau est asymétrique. Longtemps, les scientifiques avaient cru qu'un être vivant en santé avait des organes symétriques et que cela incluait le cerveau. Cependant, en 1860, le médecin français Paul Broca remarque, en étudiant des patients qui avaient perdu l'usage de la parole, qu'ils souffraient tous de lésions dans l'hémisphère gauche. Le scientifique allemand Karl Wernicke est arrivé peu de temps après à la même conclusion pour la compréhension du langage. Les scientifiques ont alors dû convenir que le cerveau était bel et bien asymétrique. On le constate autant en raison des différences structurelles que des différences fonctionnelles qui existent entre les deux hémisphères, observaient des chercheurs chinois dans un article publié en 2023. Autrement dit, il existe des différences dans le volume de la matière grise, l'épaisseur du cortex, l'intégrité de la matière blanche et la connectivité de chaque hémisphère. Par exemple, l'aire de Broca, responsable du langage, est plus grosse que sa région homologue dans l'hémisphère droit, soulignaient des chercheurs américains dans un article de 2003. Droitiers et gauchers. Au niveau du fonctionnement, le principal signe de l'asymétrie de notre cerveau est le fait que nous avons généralement une préférence pour la main droite ou la main gauche, remarquait Michael Corballis. Le langage est aussi l'une des fonctions les plus latéralisées, notaient, en 2016, des chercheurs de la Californie. Comme l'avait observé Rogers Perry, l'hémisphère gauche, ou du moins une aire de l'hémisphère gauche, est bel et bien le siège du langage, tout comme cet hémisphère est le siège de la gestuelle et de l'utilisation des outils. Alors que le droit s'occupe plutôt du traitement des émotions et des stimuli provenant de l'environnement. Par exemple, les patients avec une lésion à l'hémisphère droit sont émotionnellement indifférents face à un événement catastrophique. De plus, les signaux visuels activent généralement l'hémisphère droit. Un côté plus important que l'autre? Mais ce n'est pas aussi simple. Rappelaient, en 2005, les experts en neurosciences Giorgio Vaiortigara et Leslie Rogers. Par exemple, le langage est localisé dans l'hémisphère gauche pour 95 à 99 % des droitiers, alors que c'est le cas pour seulement 70 % des gauchers. Cela signifie que le cerveau n'est pas latéralisé de la même façon chez tous les individus. On peut aussi en déduire qu'il y a des avantages, du point de vue de l'évolution, à avoir un cerveau asymétrique, mais que cela ne dépend pas de quel hémisphère est spécialisé. Des chercheurs américains l'ont démontré en 2013 dans une étude réalisée auprès de 1101 individus de 7 à 29 ans. Grâce à l'imagerie médicale, ils ont analysé l'activation de 7000 régions du cerveau pour déterminer si un hémisphère était plus actif que l'autre. Ils ont remarqué que l'activité du cerveau était très similaire d'une personne à l'autre. Ces résultats ne soutiennent donc pas l'idée qu'il existe des gens avec un cerveau droit et d'autres avec un cerveau gauche. Mathématicien versus artiste. Si l'on réalisait des tests d'imagerie du cerveau sur un groupe de mathématiciens et sur un groupe d'artistes, on ne verrait pas de différence marquée, renchérissait en 2022 le médecin Robert Schmerling de l'École de médecine de l'Université Harvard. Autrement dit, nous utilisons les deux côtés de notre cerveau presque en tout temps, insistait en 2013 Kara Federmeyer, professeure de psychologie à l'Université de l'Illinois, dans une entrevue accordée à la radio publique NPR. Par exemple, des données ont montré que la pensée créative active un vaste réseau dans le cerveau et ne favorise pas un hémisphère plus que l'autre, expliquait en 2014 Michael Corbalis. Dans le cas du langage, c'est surtout l'hémisphère gauche qui retrouve les mots. Mais certaines régions de l'hémisphère droit sont aussi activées et peuvent compenser si le gauche est endommagé, rappelaient en 2016 les chercheurs de la Californie. Les hémisphères travaillent ensemble. De plus, l'hémisphère droit est important pour reconnaître le ton, le rythme et l'accent, alors que l'hémisphère gauche s'occupe de la syntaxe et de la sémantique, observaient en 2020 des chercheurs allemands dans une revue de la littérature scientifique sur la latéralisation du cerveau. Quant aux habiletés en mathématiques, elles nécessitent également l'activation de chaque hémisphère, notait Kara Federmeyer en 2013. Le gauche permet de compter et de se rappeler les tables de multiplication, alors que le droit est utile pour estimer les quantités. Verdict. Certaines fonctions du cerveau sont bel et bien localisées de façon préférentielle dans un hémisphère plutôt que l'autre. Cependant, il n'y a pas de différence marquée en fonction de la personnalité, puisque nous utilisons les deux hémisphères de notre cerveau presque en tout temps. C'était « L'hémisphère dominant de notre cerveau explique notre personnalité? » Faux. Un texte de Kathleen Couillard, paru le 30 juin 2024 dans l'Express.ca de Toronto.
Le vélo est une machine secrète à fabriquer des millionnaires. Un texte de Nicolas Bérubé, paru le 7 juillet 2024 dans la presse. Imaginez une invention qui rend les gens plus musclés, de meilleure humeur, qui réduit les coûts de transport, qui rallonge l'espérance de vie, qui combat le surpoids, qui élimine le besoin d'avoir un abonnement au gym et de trouver du temps pour s'entraîner, qui aide à résoudre la congestion routière, en plus d'éliminer les problèmes de stationnement, de réduire à presque zéro les dépenses des contribuables en matière de mobilité, et qui est agréable à utiliser, qui élimine la pollution sonore et l'émission de particules fines, qui réduit les risques de maladies du cœur, de démence, et le besoin de recourir aux hôpitaux, qui encourage la socialisation, qui développe l'autonomie des enfants, des adolescents et des aînés, en plus de nous donner un meilleur teint et de nous rendre plus attirants aux yeux d'un partenaire actuel ou futur. Ah oui! Et imaginez que cette invention combat aussi le problème des milliards de dollars que nous remettons chaque année aux producteurs d'énergie fossile. Et qu'elle fait diminuer le relâchement dans l'atmosphère des gaz qui réchauffent dangereusement et pour toujours la seule planète habitable de notre système solaire. Combien coûterait une telle invention? Probablement quelques millions, n'est-ce pas? Me croiriez-vous si je vous disais qu'elle ne coûte que quelques centaines de dollars et qu'à Montréal, à Laval, à Longueuil, à Boucherville, à Terrebonne, à Westmount, à Mont-Royal et à Montréal-Est, cette invention est déjà accessible en 10 000 exemplaires au coin des rues, 24 heures sur 24, prête à enrichir de façon permanente la vie de toute personne qui en approche son téléphone intelligent. J'essaie souvent de prodiguer ici des conseils pour diminuer ses dépenses. C'est facile de se rabattre sur des clichés, arrêter d'acheter des cafés à l'extérieur, manger moins au resto le midi, choisir un véhicule motorisé moins coûteux. Mais il existe une bien meilleure façon de concilier l'argent et le bonheur. S'il s'agissait d'une pilule, bien des gens se l'arracheraient avec raison. Le vélo n'est souvent pas vu comme une machine à imprimer de l'argent, mais il devrait l'être. Au Québec, on pense souvent que le vélo n'est bon que pour les gens qui habitent en ville. Et c'est vrai que le vélo est parfait pour les courtes et moyennes distances, disons moins de 10 km. La bonne nouvelle? Les 13 millions de Canadiens qui utilisent la voiture pour se rendre au travail parcourent une distance médiane de 8,7 km dans chaque direction, selon Statistique Canada. Est-ce que le navetteur qui parcourt 81 km pour aller travailler existe? La mère qui va déposer l'équipe de soccer au complet au milieu de nulle part? Bien sûr qu'ils existent, et ils ont besoin d'une voiture. Mais ces cas forment une minorité des déplacements. La majorité des déplacements sont courts. Aussi, bien des gens voient le vélo comme un moyen de transport pour les jeunes en excellente forme physique. Tout ça est 100% culturel et variable. Dans les endroits d'Europe où les réseaux cyclables ont été priorisés depuis les années 1970, il est courant de voir des personnes âgées faire leurs courses à vélo dans de petites, moyennes et grandes villes. L'âge n'a jamais été un facteur dans mon esprit. Avec la marche, mon vélo a toujours été mon principal mode de transport. C'était vrai quand j'avais 15 ans, et c'est vrai aujourd'hui, à 47 ans. À la campagne, en banlieue ou en ville, ça ne fait aucune différence, J'utilise mon vélo comme j'utilise mes yeux, mes mains ou mes jambes. Et pour les distances plus longues, ou pour les gens moins en forme, le vélo électrique est révolutionnaire. On peut arriver au travail sans une goutte de sueur, même en montant des côtes les jours de canicule. On trouve des centaines de vélos électriques sur Kijiji ou sur Marketplace, avec plusieurs modèles à moins de 1 000 $. On trouve aussi des remorques d'occasion qui permettent de transporter des enfants, l'épicerie, etc. Je crois qu'une des barrières à l'utilisation du vélo est psychologique. Bien des tâches dans notre journée sont automatisées. Et donc, lorsqu'on veut aller quelque part, on tend le bras pour saisir notre trousseau de clés. Même s'il fait 25 degrés, que le soleil brille et qu'on est sur le point de déplacer une caisse de métal et de verre de 2000 kg pour aller déposer un enfant de 23 kg à 4 km de la maison. Je comprends que des gens habitent sur des routes où la vitesse permise est de 70 km/h ou 90 km/h, avec beaucoup de trafic routier et qui ne permettent pas la pratique du vélo. Cela dit, la majorité des gens habitent dans un environnement où des chemins plus calmes existent et où la pratique du vélo est sécuritaire. En fait, c'est ne pas utiliser le vélo qui est dangereux. 8 Canadiens sur 10 souffrent de sédentarité, un état propice au développement de différents cancers et des maladies cardiovasculaires, les deux premières causes de décès au pays. Se déplacer à vélo élimine la sédentarité. C'est aussi simple que ça. Je sais que les gens qui lisent cette rubrique s'intéressent aux gros sous. Donc je vais arrêter de tourner autour du pot et parler des vraies affaires. Conduire un véhicule motorisé brûle 70 cents du kilomètre en frais d'utilisation, ce qui inclut la dépréciation, l'usure, l'essence, l'entretien et les assurances, selon l'Agence du revenu du Canada, ARC. Un déplacement à vélo ou à vélo électrique de 8,7 km le matin et le soir, 5 jours par semaine, donne environ 274 $ en économie par mois. Maintenue 6 mois par année, cette habitude dégage 23 000 $ en économie par décennie lorsqu'on calcule un rendement de 7% sur nos placements. Sur une carrière qui peut durer de 20 ans à 65 ans, prendre le vélo durant les beaux mois de l'année pourrait nous enrichir de 500 000 $. Et je n'inclus pas ici les bénéfices pour la santé. Ce n'est qu'un début. Peut-être que la personne qui intègre des déplacements à vélo dans son quotidien pourra se passer d'une deuxième voiture ou choisir un véhicule d'occasion bon marché qui servira moins souvent. Comme bien des véhicules sont financés, j'ai des sueurs froides juste à l'écrire, cette personne pourrait, suivant une estimation prudente, se passer d'un paiement de voiture de 500 $ par mois. Selon J.D. Power Canada, le paiement mensuel moyen pour un véhicule neuf est de 880 $ actuellement. Une somme de 500 $ par mois investie de l'âge de 20 ans à 65 ans donne 1,8 million si on estime un rendement annuel de 7%. Millionnaire, fort et en santé simplement à force de pédaler une partie de l'année. Je ne peux imaginer renoncer à ça. C'était « Le vélo est une machine secrète à fabriquer des millionnaires », un texte de Nicolas Bérubé paru le 7 juillet 2024 dans la presse.
Les puits de gaz de schiste du Québec laissent toujours fuir du méthane. Un texte d'Alexandre Shields paru le 13 juillet 2024 dans Le Devoir. Les puits de gaz de schiste forés et fracturés au Québec laissent toujours fuir du méthane, un très puissant gaz à effet de serre. Le problème est bien connu du gouvernement, mais il est impossible de savoir quand il pourrait être réglé. La fermeture des puits est en effet suspendue en raison des actions en justice lancées par les entreprises qui en sont responsables, qui réclament des centaines de millions de dollars de compensation pour la fin de l'exploration gazière. À la suite d'une demande d'accès à l'information, Le Devoir a pu obtenir des rapports d'inspection ainsi que les plus récentes données du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, MEIE, concernant les fuites des 18 puits de gaz de schiste qui ont été forés et fracturés il y a maintenant environ 15 ans. Même s'ils ont essentiellement un statut de fermeture temporaire, tous ces puits d'exploration devront être fermés de façon définitive, puisque le gouvernement du Québec a interdit l'exploitation du gaz de schiste. Or, non seulement ces puits ne sont toujours pas fermés, mais ils laissent fuir du méthane. L'analyse des rapports d'inspection obtenus du MEIE permet d'ailleurs de constater que plusieurs connaissent des fuites importantes depuis des années de ce gaz à effet de serre qui a un effet de réchauffement planétaire 28 fois plus élevé que le CO2, voire 80 fois plus élevé sur une période de 20 ans. Les données du ministère évaluent aujourd'hui le volume des fuites quotidiennes à 122 mètres cubes, soit environ 45 000 mètres cubes de gaz naturel par année. Le Devoir a soumis ces chiffres au titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie de HEC Montréal, Pierre-Olivier Pinault. Selon ses calculs, ces fuites équivalent à 2,39 tonnes de CO2 par jour, soit presque autant que les émissions annuelles d'une voiture. Pour l'année, on parle d'un peu moins de 900 tonnes de gaz à effet de serre, soit l'équivalent d'environ 315 voitures. Risque d'incendie. Ces fuites sont surtout le fait de 8 des puits qui ont été forés par une industrie qui ambitionnait d'en forer plus de 20 000 dans la vallée du Saint-Laurent. Le puits le plus problématique a été foré et fracturé par Talisman Energy, une entreprise albertaine qui n'existe plus depuis son rachat par la multinationale Repsol. Ce seul puits, situé à la Visitation, laisse fuir dans l'atmosphère près de 17 000 mètres cubes de méthane chaque année. Dès 2010, des émissions de gaz ont été mesurées à 49 mètres cubes par jour par les inspecteurs du gouvernement et elles se sont poursuivies même après des travaux de réparation du puits. Un autre puits foré par Talisman Energy, cette fois à Saint-Édouard, en Montérégie, a lui aussi connu des fuites dès 2010. Dans un rapport de 2019, l'inspecteur du MEIE constatait de nouveau des problèmes importants. Il y a une migration de gaz qui représente un risque d'incendie ou un autre risque pour la sécurité des personnes et des biens et pour la protection de l'environnement, écrit-il dans son rapport. Les fuites quotidiennes ont depuis augmenté et elles ont été constatées à la tête du puits, mais aussi autour de celui-ci. Elles sont aujourd'hui évaluées à 36 mètres cubes par jour, soit plus de 13 000 mètres cubes de méthane par année. Un puits foré par Gastem à Saint-Louis-de-Richelieu, tout près d'un secteur résidentiel, présentait pour sa part de faibles émissions en 2010, et celles-ci n'avaient alors pas été mesurées. Mais lors d'une inspection réalisée en 2021, l'inspecteur constate une fuite de gaz importante, tout en constatant une émanation de gaz hors d'un puits qui représente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour la sécurité des biens. Aujourd'hui, ce puits laisse fuir environ 10 000 mètres cubes de gaz chaque année. Une fermeture à quel prix? Membre du collectif scientifique sur la question du gaz de schiste et les enjeux énergétiques au Québec, Marc Brudman ne s'étonne pas des chiffres inscrits dans les documents du MEIE. À peine une année ou deux après le début des discussions sur le gaz de schiste, donc dès 2011, nous avions déjà établi qu'au moins un tiers des puits connaissaient des fuites, souligne-t-il. Et je ne vois pas pourquoi les fuites cesseraient par elles-mêmes. Selon M. Bullman, les données du ministère ne prennent toutefois pas la pleine mesure des fuites réelles de méthane, puisque les évaluations sont faites à l'évent du puits, alors que les fuites résultant de la fracturation peuvent aussi survenir tout autour. Dans certains cas, la portion horizontale du puits, qui a été fracturée, peut mesurer plusieurs centaines de mètres. Celui qui surveille la situation de ces puits depuis plusieurs années craint d'ailleurs la suite des choses. Avec le temps qui passe, je vois deux problèmes principaux en tant que citoyen du Québec. Il y a bien sûr les fuites qui se poursuivent avec les risques de pollution, mais il y a aussi un enjeu par rapport aux coûts pour stopper les fuites et fermer les puits. Le MEIE, qui a d'abord refusé de nous transmettre le document sur le volume des fuites, se veut pour sa part rassurant. Par courriel, on réitère que le montant prévu pour la fermeture de tous les puits qui ne le sont pas encore, soit 62 puits, dont les puits de gaz de schiste, est de 33 millions de dollars. Le ministère a d'ailleurs en main les plans de fermeture des responsables de ces puits. Les mesures incluses dans ces plans pour remédier à ces fuites seront mises en œuvre lors de la fermeture définitive, précise-t-on. Mais, ajoute le MEIE, les travaux de fermeture sont présentement suspendus en raison d'actions en justice lancées contre le gouvernement. À l'heure actuelle, 13 poursuites ont été intentées par des entreprises qui détenaient des permis d'exploration pétrolière et gazière au Québec et qui jugent que les 62 millions de dollars de fonds publics prévus en guise de compensation sont nettement insuffisants. Elles réclament globalement plusieurs centaines de millions de dollars, jugeant que le rejet des projets d'exploration équivaut à une forme d'expropriation. Plusieurs contestent d'ailleurs la constitutionnalité de la législation qui a mis fin à cette filière controversée. Projet de stockage de CO2. Conformément aux dispositions prévues par le gouvernement du Québec, tous les puits de gaz de schiste doivent être fermés d'ici la fin de 2027, à l'exception de ceux qui pourraient faire l'objet d'un projet pilote d'acquisition de connaissances. Des puits pourraient être utilisés pour des projets de capture et de stockage de carbone. Le MEIE indique d'ailleurs, dans une réponse écrite, qu'une demande d'autorisation a été déposée au ministère pour un projet pilote pour le stockage géologique de CO2. Mais on refuse de donner davantage de détails en indiquant simplement que le nom de l'entreprise est une information confidentielle. C'était « Les puits de gaz de schiste du Québec laissent toujours fuir du méthane », un texte d'Alexandre Shields paru le 13 juillet 2024 dans Le Devoir.